Si une question dont la réponse en étonnera plusieurs, est-ce qu'on peut parler à Dieu comme on parle à nos copains? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui nous aidera à mieux connaître le Seigneur aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je suis en train de penser aux disciples de Jésus qui, un jour, lui ont demandé de leur enseigner à prier. Je pense qu'à travers l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui, on va savoir davantage comment prier, comment s'adresser à Dieu, et aussi à quoi on peut s'attendre quand on le prie sincèrement. Alors voici les questions qu'on va poser à l'Épître aux Hébreux. Est-ce que les prêtres, tels qu'on les voit dans la religion, ont accès à Dieu d'une manière privilégiée? Quelles sont les fonctions du Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer ferme dans la foi? Est-ce que le Seigneur Jésus nous comprend quand nous sommes tentés? Est-ce qu'on peut parler à Dieu comme on parle à un copain? Peut-on lui dire tout ce qu'il y a sur notre cœur? Est-il toujours prêt à nous pardonner? Quelle attitude devons-nous avoir quand nous prions? Restez avec nous, nos réponses s'en viennent. Le pasteur Régent Joly les a trouvées dans la Bible, ce livre merveilleux dont Dieu est l'auteur. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on sait que ta parole vient entièrement de toi. Et on se réjouit aujourd'hui de ce que tu vas nous l'enseigner par la bouche de ton serviteur. Aide-nous à nous concentrer sur tout ce que tu vas nous dire. Aide-nous à le pratiquer dans chacune de nos vies. Nous t'écoutons, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le repos de Dieu est éternel. Nous avons aussi expliqué que lorsque Dieu s'est reposé après les 6 jours de création, cela ne signifiait pas qu'il était épuisé, mais qu'il avait terminé son œuvre créatrice en ce qui concerne l'univers. Présentement, Dieu se crée des enfants. Ils connaîtront le repos céleste éternel, mais en attendant, il leur permet d'y goûter déjà. Un bel exemple de ce repos que goûte le croyant est Marie, la sœur de Marthe. Lorsque les deux sœurs ont reçu le Seigneur Jésus et ses disciples, Marthe se préoccupait du repas alors que Marie a choisi de s'asseoir au pied de Jésus. Elle a joui d'une relation personnelle avec le Seigneur alors que Marthe s'épuisait à vouloir tout faire rapidement. Nous avons vu que la parole de Dieu, la Bible, était vivante, efficace et tranchante. C'est l'instrument que Dieu utilise pour sauver les pécheurs et pour transformer la vie de ceux qui viennent à lui. Nous avons dit qu'un être humain en sait vraiment trop peu pour se permettre de juger ou de critiquer la parole de Dieu. C'est plutôt la Bible qui doit nous convaincre de péché, nous montrer le péché dans notre vie. Ce livre nous révèle la solution de Dieu pour le péché de l'homme. La Bible ne s'intéresse pas principalement aux actions des hommes, mais des motifs de son cœur. En effet, c'est dans le cœur d'un homme que ses actions prennent naissance. Nous avons un cœur méchant, et celui-ci nous trompe. Dieu connaît parfaitement nos motifs. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Il voit tout, il sait tout, il est présent partout. Nous avons terminé l'émission en vous demandant si Dieu a fait de vous un de ses enfants. Vous a-t-il sauvé de votre état de péché pour faire de vous un de ses enfants? À qui Jésus-Christ est-il supérieur? Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle section de l'Épître qui débute avec le verset 14 du chapitre 4 et qui se termine au verset 28 du chapitre 7. Dans cette section, nous voyons que le Seigneur Jésus est un souverain sacrificateur ou un grand prêtre supérieur aux prêtres lévitiques. il était nécessaire que les croyants hébreux comprennent cela clairement, car ils étaient habitués d'approcher Dieu en passant par les prêtres lévitiques, les prêtres qui ont servi dans le tabernacle, dans le désert, et ensuite dans le temple de Jérusalem. C'est devant eux qu'ils prenaient des engagements envers Dieu, et c'est à eux qu'ils apportaient leurs sacrifices. Le Seigneur Jésus lui-même est notre grand prêtre. Au chapitre 3, l'apôtre Paul était si enthousiaste au sujet du sacerdoce de Jésus-Christ qu'il a dit « C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. » Hébreux chapitre 3, verset 1. Il voulait que les lecteurs de l'Épître s'arrêtent et posent immédiatement leur regard sur notre souverain sacrificateur. Ce regard n'était pas un coup d'œil rapide, mais une réflexion sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ce que l'on fera dans une bonne portion du reste de l'Épître aux Hébreux. De plus, nous appliquerons ces grandes vérités à notre situation contemporaine. Chers amis, débutons notre lecture, Hébreux chapitre 4, le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Que nie le concept païen de la prêtrise? Le Seigneur Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Le concept païen de la prêtrise déteint sur notre pensée à ce sujet. Un prêtre païen empêchait les gens de venir à Dieu, car il prétendait avoir des connaissances et une puissance mystique nécessaires pour conduire une personne à Dieu. Une personne devait passer par ce prêtre qui prétendait avoir un accès privilégié à Dieu. Ce concept ni le fait que l'œuvre du Seigneur Jésus est entièrement achevée, ainsi que le sacerdoce de tous les croyants. Jean Calvin a beaucoup insisté sur le fait que tous les croyants sont des prêtres conformément à l'enseignement de la Bible. C'est une des grandes vérités du Nouveau Testament. Nous avons tous besoin d'un prêtre, car nous avons tous nos lacunes, nous avons tous besoin d'aide, et nous avons tous nos complexes. Job a lancé ce cri du cœur. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Job chapitre 9 verset 33. Job aurait aimé avoir eu un intermédiaire entre lui et Dieu pour comprendre pourquoi tant de malheurs l'avaient frappé. Job aurait aimé un médiateur qui aurait aidé Dieu et lui à s'approcher l'un de l'autre. Le Seigneur Jésus est ce médiateur, ce prêtre, par lequel tous les croyants ont accès au trône de Dieu. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Lorsqu'il était sur terre, le Seigneur Jésus n'était pas un prêtre. Le Seigneur Jésus n'a jamais eu besoin d'offrir de sacrifice pour ses propres péchés. Il n'y a qu'une seule mention de quelque chose qui ressemble à un sacrifice lors du ministère public de Jésus dans les Évangiles. Un jour, on lui a demandé s'il payait la taxe du temple. Le Seigneur Jésus a demandé à Pierre d'aller pêcher un poisson et de payer la taxe pour eux avec la pièce de monnaie qui se trouverait dans la bouche du poisson, bien que les prêtres étaient exempts de payer cette taxe. Le Seigneur Jésus a fait cela pour montrer qu'il n'était pas un prêtre ici-bas sur terre. Pour être un prêtre, il fallait naître dans la tribu de Lévi, être un descendant d'Aaron. Jésus est né dans la tribu de Juda. Il n'avait pas une ascendance sacerdotale, mais plutôt une ascendance royale. Il était un descendant de David. Sur terre, il était un prophète qui parlait au nom de Dieu. Il est retourné au ciel afin d'être un prêtre qui intercède pour nous et qui nous représente auprès de Dieu. Il est devenu un prêtre lorsqu'il est monté au ciel. Il a été crucifié sur la terre pour nous sauver, mais il vit dans le ciel pour nous préserver. Il est vrai qu'il s'est offert en sacrifice pour les péchés, et cela fait partie de la fonction d'un prêtre. Cependant, afin de devenir un prêtre, qui nous représente, il devait attendre d'être de retour dans la gloire céleste. Quelles sont les trois fonctions du Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus a exercé trois fonctions. Premièrement, il était un prophète lorsqu'il est venu sur la terre il y a environ 2000 ans, une fonction du passé. Deuxièmement, il est un prêtre, une fonction qu'il exerce présentement. Et troisièmement, il est un roi et il reviendra régner dans le futur. Le Seigneur Jésus a ces trois fonctions et c'est le sujet de l'Épître aux Hébreux. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. L'auteur nous propose un défi, celui de demeurer ferme. En fait, il nous appelle et nous ordonne de demeurer fidèles. Demeurons fermes dans notre confession. Le mot « confession » est plus précis que « profession », car il comprend le concept de consécration en plus de celui de proclamer. Demeurer ferme dans la foi, c'est avoir une marche chrétienne exemplaire. Notez qu'il ne dit pas « demeurons fermes dans le salut que nous professons ». Ici, l'auteur ne parle pas du salut, mais de notre témoignage ici-bas sur la terre. Il parle de marcher avec le Seigneur Jésus et de consécration à Dieu. Le Seigneur est mort sur le calvaire pour nous sauver, et il vit au ciel pour nous préserver et nous permettre d'avoir un témoignage et une vie exemplaire. Des personnes affirment être incapables de vivre chrétiennement. J'ai une nouvelle pour vous. Ces personnes ont raison. Personne ne peut vivre chrétiennement, et Dieu n'a jamais demandé à quiconque de le faire. Je suis heureux qu'il en soit ainsi, car j'ai tenté de le faire, et ce fut un échec. Nous ne pouvons pas marcher dans les voies de Dieu par nos propres forces, cependant. Le Seigneur Jésus veut se manifester à travers nous. Il vit dans le ciel afin que nous puissions demeurer fermes dans notre confession et avoir un témoignage constant. Au chapitre 11, plusieurs héros de la foi seront identifiés, et nous verrons les résultats que la foi a obtenus dans la vie de ces personnes. Le texte mentionne des hommes et des femmes de toutes les périodes de l'histoire biblique. Toutes les personnes mentionnées ont eu un bon témoignage, et cela à cause de leur foi. Ils marchaient par la foi. Verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Nous avons un souverain sacrificateur qui nous comprend. » Le Seigneur Jésus a été tenté, c'est-à-dire éprouvé ou testé, mais il n'a pas commis de péché. L'épreuve a démontré qu'il était sans péché, qu'il n'avait pas de nature pécheresse. Lorsqu'il a été testé dans le désert, Jésus n'aurait pas pu succomber, car il était Dieu fait homme. Cependant, l'épreuve a été beaucoup plus intense avec lui qu'elle pourrait l'être avec nous. Jésus pouvait dire, « Le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Jean, chapitre 14, verset 30. Nous avons des natures pécheresses et Satan trouve des points faibles en nous. Il sait attiser notre convoitise. Cependant, il ne pouvait pas attiser la convoitise du Seigneur Jésus, car il n'a rien trouvé en Christ Jésus. Permettez-moi d'illustrer. Un bateau sur l'eau ne peut que soutenir une certaine pression. Au-delà d'un certain point, la coque du bateau se brise, l'eau y pénètre, et alors la pression est annulée. C'est ainsi que nous sommes. Nous cédons sous la pression et celle-ci cesse. Jésus n'a jamais succombé, et une pression que nous n'aurions jamais pu supporter a été exercée sur lui. Jésus a été testé à un degré beaucoup plus fort que nous l'avons été ou que nous le sommes. De même, les wagons d'un train ne peuvent pas dépasser une certaine charge. S'ils sont surchargés, le wagon courbera au milieu et se brisera. Même un wagon ne peut pas prendre une charge infinie. Cela est vrai de nous tous. Nous pouvons porter des poids, mais nous avons une limite que nous ne pouvons pas dépasser. Mes amis, le poids de tentation que le Seigneur Jésus pouvait supporter était infini. Il a été éprouvé et il n'a pas succombé. Cependant, puisqu'il a été tenté, il comprend ce que nous subissons et ressentons. Nous avons un souverain sacrificateur qui nous comprend. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes, a eu une pensée intéressante. Il a toujours cru que la mort d'Aaron a davantage touché la nation d'Israël que la mort de Moïse. Aaron était le souverain sacrificateur, le grand prêtre de la nation. De nombreux Israélites avaient été élevés avec Aaron. Ils avaient joué avec lui pendant son enfance et ils avaient traversé le désert avec lui. Ils pouvaient venir à Aaron et lui dire « Aaron, j'ai fait ce péché, mais je n'aurais pas dû le faire. Voici mon sacrifice. » Aaron pouvait sympathiser avec eux. Il comprenait exactement ce qu'ils ressentaient. Cependant, lorsque Aaron est mort, est-ce que son successeur, bien que fils d'Aaron, les comprendrait aussi bien? Pourrait-il sympathiser avec eux et les aider? Nous avons un grand prêtre qui est toujours disponible et qui nous comprend parfaitement. Sa connaissance n'est pas théorique. Il ne l'a pas obtenue d'un livre de psychologie, mais il est venu sur terre et il a été tenté. Il peut compatir à nos faiblesses. Il a connu la faim, la fatigue, le chagrin, la douleur. Jésus a même pleuré. Il peut compatir à nos faiblesses. Il a été éprouvé, tenté, testé, mais il n'a jamais succombé au péché. Revenons au texte, Hébreux chapitre 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Que signifie approcher Dieu avec assurance? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Avoir de l'assurance, ce n'est pas avoir du culot, du toupet ou être effronté. À cause d'une traduction anglaise de la Bible, plusieurs pensent que l'on peut se présenter devant Dieu avec impudence ou une hardiesse effrontée. Plusieurs approchent Dieu comme s'il était leur copain ou comme on dit familièrement, comme s'il était leur pote. Ce n'est pas cela approcher Dieu avec assurance. C'est approcher Dieu avec aisance et avec un sentiment de sécurité. C'est approcher Dieu avec la certitude qu'il veut nous accueillir et qu'il veut répondre à nos besoins. Le mot grec traduit assurance est paresia. Il signifie parler librement et sans réserve. Dieu veut que nous lui ouvrions notre cœur en toute liberté. Approchons-nous donc avec assurance, une grande liberté, du trône de la grâce. Nous avons la liberté de parler au Seigneur Jésus-Christ. Je peux lui dire des choses que je ne vous dirai pas. Il me comprend. Il connaît mes faiblesses. Alors, aussi bien de lui en parler. J'ai appris à être franc avec le Seigneur. Je n'essaie pas de le traiter comme s'il était mon copain ou mon pote. Ce n'est pas la bonne approche, car il est Dieu. Je l'approche donc dans un esprit d'adoration et de respect. Cependant, je suis libre de parler, car il est aussi un homme. Le Seigneur Jésus est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Je peux donc venir à lui avec une grande liberté. Je peux lui ouvrir mon cœur. Je ne crois pas que toutes ces belles prières aux paroles onctueuses que nous lui faisons l'impressionnent, surtout si nous les faisons pour tenter de masquer le véritable contenu de notre cœur et comment nous vivons réellement. Je me demande si le Seigneur ne change pas de poste lorsque nous ne l'approchons pas avec liberté et en lui ouvrant notre cœur. C'est probablement pour cette raison que nos réunions de prière sont si peu efficaces. Nous venons à lui sans parler sincèrement, sans lui ouvrir notre cœur en toute liberté. Du trône de la grâce, le trône de Dieu est un trône d'où il dispense sa grâce. Le trône de Dieu est un propitiatoire pour tous ceux qui croient en Christ Jésus, pour tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Par contre, pour ceux qui rejettent le Fils, ce trône en est un de jugement. Notre grand Dieu a été infiniment miséricordieux envers nous, afin d'obtenir miséricorde. Nous avons besoin que Dieu exerce sa miséricorde envers nous. C'est parce qu'il est miséricordieux que Dieu a pourvu pour notre rachat. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Tite, chapitre 3, verset 5. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Notre grand Dieu a été infiniment miséricordieux envers nous, et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. L'idée de secours est une notion positive. Elle porte nos regards vers l'avenir. Nous obtenons la miséricorde de Dieu et sa grâce lorsque nous en avons besoin. David a écrit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Le psaume 23, verset 1. Plusieurs versions mettent ce verset au présent. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Parole vivante. Dieu a promis de pourvoir aux besoins de ceux qui travaillent à l'avancement de son royaume. Cela est vrai aujourd'hui, et cela demeurera toujours vrai jusqu'au retour de Jésus-Christ. Pourquoi? Le Seigneur est mon berger, et j'ai un grand prêtre dans les lieux célestes. Je peux approcher mon berger. Êtes-vous déjà allé vers Dieu aujourd'hui? Que lui avez-vous dit? Lui avez-vous dit que vous l'aimez? Lui avez-vous confessé vos péchés? Pourquoi ne le faites-vous pas? Il les connaît déjà tous. Cependant, parlez de vos péchés avec lui et il vous aidera. Ne portez pas de masque lorsque vous allez vers Dieu. Le Seigneur Jésus sait déjà que vous pouvez l'approcher uniquement à cause de ses propres mérites. Il vous a acquis votre accès au trône de la grâce sans que vous l'ayez mérité. Allez vers Dieu et parlez-lui en toute liberté. Vous obtiendrez la grâce et la miséricorde dont vous avez besoin. Mes amis, je termine cette émission avec une petite réflexion au sujet de la prière. Ce que Dieu veut, c'est de la franchise et de la sincérité dans nos relations avec lui. Lorsque nous venons en prière, nous devons certainement le louer, mais il faut aussi lui ouvrir notre cœur. Si nous n'avons pas eu une conversation avec Dieu, nous n'avons pas prié. Prier, ce n'est pas réciter des paroles apprises par cœur. Prier, ce n'est pas présenter une liste de requêtes à Dieu. Oui, nous pouvons présenter des requêtes à Dieu, mais nos prières doivent être plus que cela. Les croyants de l'Ancien Testament louaient Dieu et reconnaissaient sa souveraineté. Nous nous adressons au Créateur de l'univers, au Dieu Tout-Puissant. Cela doit être fait dans un esprit d'adoration et de respect. De plus, une prière agréable à Dieu provient d'un cœur qui l'aime. Ce cœur qui l'aime se consacre à Dieu et il veut le servir. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean chapitre 14, verset 15. De plus, prier, c'est lui ouvrir notre cœur au sujet de nos faiblesses et de notre péché. Nous lui demandons pardon et nous sollicitons son secours. Nous lui présentons nos problèmes, nos inquiétudes, nos soucis, et nous lui faisons confiance pour qu'il apporte des solutions. Nous lui parlons de nos joies, et nous exprimons notre gratitude pour les bénédictions reçues. Lorsque nous présentons une requête à Dieu, c'est parce que cela est instrumental à sa gloire et à l'avancement de son royaume. Ceux qui ne font que des prières égoïstes ne glorifient pas Dieu, mais le considèrent comme leur serviteur. Chers amis, prochaine émission, l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, les versets 1 à 7. À vous tous, bonne lecture.
Merci, Régent. Tu as dit aujourd'hui qu'on ne pouvait pas marcher dans les voies de Dieu par nos propres forces. Tu as aussi mentionné que le Seigneur Jésus voulait se manifester à travers nous, ce qui t'a amené à nous enseigner sur la prière. Eh bien, mes amis, je suis vraiment heureuse que le Seigneur m'ait enseigné dès mes premiers pas en tant qu'enfant de Dieu, que sans lui, je ne peux rien faire. D'ailleurs, dans le 15e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 5, Jésus lui-même a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Je suis vraiment heureuse de comprendre ça. Ça me donne la certitude que je ne peux rien entreprendre sans aller à Dieu pour lui demander de me secourir, de me soutenir, de me guider, de m'aider dans tout ce que j'entreprends. Je ne vais pas vous dire que j'ai atteint un niveau de perfection à cet égard. Loin de là, il m'est arrivé depuis environ 30 ans de vie chrétienne de faire des choses sans consulter Dieu, surtout dans le domaine des finances, et je vous assure que le Seigneur m'a reprise à ce niveau. Aujourd'hui, je peux marcher sans avoir des dettes sur les épaules, mais le Seigneur a dû me reprendre concernant les achats impulsifs, et maintenant, je fais réellement attention, je consulte Dieu. Mais pour ce qui est de mes ministères, dans l'évangélisation et dans la louange, je peux sincèrement vous dire que si je peux me réjouir de voir Dieu à l'œuvre, c'est que mes combats se font dans la prière. Et non seulement dans mes temps personnels avec Dieu, mais aussi avec les frères et sœurs qui participent à ces ministères avec moi. Et ensemble, on peut se réjouir de voir Dieu à l'œuvre pour se faire connaître à ceux qui ne l'ont pas encore reçu comme Sauveur et Seigneur. Et de le voir à l'œuvre aussi dans son Église, alors que le peuple de Dieu se réunit pour le louer, pour l'adorer. Il manifeste sa présence et sa toute-puissance simplement parce que nous le lui demandons avec sincérité, avec foi. Je viens de me procurer un livre intitulé « Prier ensemble est efficace ». C'est écrit par Stormy O'Martian. À l'endos de ce livre, elle dit quelque chose de vraiment intéressant. Permettez-moi de vous le lire. Elle dit « Soyez encouragés. Entrez hardiment dans une communion fraternelle avec d'autres croyants pour effectuer des changements dans votre entourage et dans le monde. Et apprenez que lorsque vous êtes prêt à relier votre cœur à celui des autres, en vous tenant devant le trône de la grâce, vous touchez des vies et des besoins avec la puissance de votre Père céleste. Mes amis, on n'est jamais perdant quand on va ensemble dans la présence de Dieu pour le prier. On goûte premièrement à la joie de goûter à sa présence et on voit aussi les fruits qui résultent de la prière. Et toi, mon ami, connais-tu Dieu assez pour aller avec assurance dans sa présence pour le prier avec la certitude qu'il désire t'exaucer? Sinon, c'est peut-être parce que tu ne connais pas encore Dieu intimement. Demande-lui de se faire connaître à toi. Reconnais que Jésus est Dieu lui-même, qui s'est fait homme, qui est venu sur cette terre donner sa vie sur la croix pour payer la condamnation qu'on mérite pour nos péchés. Et repens-toi, change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle et il va le faire certainement.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi. On va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.